BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain contient une fraction de notre avenir. Les pros des cryptos chaque vendredi sur BFM Business avec nos trois experts. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Il a sorti ce vendredi sa plus belle chemise. On n'est pas habitué. Owen Simonin est avec nous. Bonjour Owen.
Bonjour.
Alias Asher et sa chaîne YouTube Asher, sa société Just Mining. Également Vincent Gann, toujours avec nous depuis TradingView France. Rebonjour Vincent. Bon, bah, vous avez bien choisi, on a tous bien choisi notre jour pour se réunir, puisque la Chine a décidé de frapper un grand coup et surtout de taper un grand coup dans la fourmilière. La Chine a annoncé donc tout à l'heure interdire le trading sur crypto et les transactions en crypto-monnaie sur son territoire. C'est quand même assez énorme. On voit le Bitcoin qui recule donc. 41 000 dollars en ce moment pour le Bitcoin. Vous suivez aussi, Vincent, les autres cryptos. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous interprétez les mouvements qui ont lieu là aujourd'hui après cette annonce quand même assez tonitruante et incroyable de la Chine?
Oui, alors sans revenir sur cette annonce de la Chine, bon, la Chine n'a jamais caché qu'elle était anti-blockchain public, anti-currency token, mais ça, on pourra l'aborder plus tard dans l'émission. Sur l'effet concret sur le marché, bon, bah, tout le monde le constate aujourd'hui, des fortes baisses sur le marché des crypto-monnaies, mais finalement, sur l'ensemble du mois de septembre, l'effet Chine, aujourd'hui, c'est un troisième choc de volatilité. Alors, rappelez-vous, lundi, c'était le 7 septembre, au début du mois, lorsque le marché avait perdu 10% après avoir atteint les 50 000 dollars. Ce lundi de cette semaine, en lien avec la corrélation avec les actions, il y a eu aussi une séance de forte baisse. Et donc là, troisième séance de baisse, voilà ce que aujourd'hui provoque l'effet Chine. Il n'y a pas non plus de rupture de support. Alors justement, j'y viens. En fait, la vraie question, le mois de septembre, c'est un mois moyen. Voilà, c'est en termes de saisonnalité, c'est le plus mauvais mois pour d'ailleurs le marché action aussi. Et au cours du Bitcoin, très bien, on s'inscrit pour l'instant dans la statistique. En fait, la vraie question du moment, elle est la suivante. Il y a eu la correction au printemps dernier, forte, 50% de baisse. Il y a eu le fort rebond de cet été. La question qui divise actuellement les analystes, c'est de savoir, est-ce que le rebond de l'été est le mouvement dominant, donc le point de départ d'un retour sur les récents records et au-delà, ou est-ce que, en fait, la correction du printemps n'est pas terminée et septembre en est une sorte de réplique qui, eh bien là, serait en cours de développement encore aujourd'hui avec l'effet Chine. Alors, pour terminer sur ce sujet-là, l'analyste chartiste peut répondre d'une façon, elle n'a pas la réponse, mais voilà ce qu'elle peut dire. Il y a une frontière technique, une frontière chartiste qui sépare ces deux scénarios, c'est le niveau des 40 000 dollars. Et d'ailleurs, regardez aujourd'hui l'effet Chine, on a fait un point bas proche des 40 000, et là on se reprend déjà depuis une petite heure. Donc voilà, sous 40 000 dollars, si le niveau est enfoncé à la clôture, c'est la garantie de revenir sur les 30 000, mais tant qu'on les tient, on reste encore sous l'influence du rebond important de l'été.
Et votre grille de lecture, c'est l'analyse technique, mais on parle souvent, c'est vrai ici, du prix du Bitcoin, mais comme en bourse, il faut aussi regarder les volumes, l'évolution des volumes. Quels sont les enseignements récents de l'évolution du volume d'échange sur Bitcoin, Vincent?
Oui, c'est vrai. Alors, on parle beaucoup hein, dans l'émission de l'évolution du prix. En analyse technique, bon, y a beaucoup d'informations, mais le prix et le volume sont des informations principales. Alors, il y a plusieurs types de données qu'on peut observer. Je ne vais pas toutes les citer, mais simplement le volume d'échange quotidien, très bien. Je peux aussi vous citer ce qu'on appelle l'open interest, ou position ouverte, c'est-à-dire là l'engagement des institutionnels sur les contrats futurs, les contrats d'options Bitcoin. Cet engagement reste quand même encore à un niveau élevé. Et ce qu'on appelle aussi les données de liquidation, c'est-à-dire chaque jour, est-ce que ce sont des positions acheteuses qui sont débouclées ou des positions vendeuses? Alors moi, par rapport à ça, j'ai deux observations. Ce qui m'a marqué cet été dans le rebond des crypto-monnaies, c'est globalement la faiblesse du volume. Faible si on compare à ce qu'on avait en début d'année lorsque le marché est passé de 20 à 60 000. D'ailleurs, ce mois de septembre est correctif. Ce qui manque pour vraiment envisager que cette correction se termine, il y a deux choses. Non seulement il faudrait donc dépasser une résistance technique, ce que je suis sont les 47 000 dollars, mais il faudrait surtout un réengagement en termes de volume. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe en fait pas du tout depuis le rebond de l'été. Enfin, une dernière chose. Au printemps dernier, le marché a chuté. Il y a eu beaucoup de positions vendeuses qui ont été ouvertes. Le jour où cette correction du printemps sera définitivement oubliée, c'est le jour où les vendeurs du début, les vendeurs au-dessus de 50 000, 60 000 dollars, couperont leur position short. On appelle ça la liquidation des positions short. Et pour le moment, cette donnée est absente de l'évolution du marché. Donc, c'est pour ça que le débat reste entier entre correction du printemps ou rebond de l'été. Qui domine? Eh bien, on n'a toujours pas la réponse.
Et on rappelle que c'est de la diversification. Les crypto-monnaies sont des actifs, bien sûr, volatiles, spéculatifs. Le gouvernement chinois, et c'est l'actu, la grosse actu de cette fin de semaine, a durci tout à l'heure sa campagne de répression. Donc, vis-à-vis des plateformes de négoce de crypto-monnaies, désormais, il est interdit en Chine de trader sur les crypto-monnaies et de réaliser des transactions en crypto-monnaie. Claire, on peut le dire clairement, la Chine essaie de prendre à la gorge, peut-être même d'étrangler les acteurs crypto sur son territoire ?
Alors, ce qu'on voit en Chine, là, ça s'insère effectivement dans une suite logique. Il y a déjà eu des mesures assez répressives sur le minage il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Moi, j'aurais quand même tendance à prendre des pincettes sur ce qu'on lit dans la presse. Là, aujourd'hui, on a vu des communiqués de presse, de l'AFP. Mais historiquement, quand on est dans le milieu crypto depuis quelques années, l'interdiction des cryptos par la Chine, c'est des choses qu'on nous a quand même déjà annoncées un certain nombre de fois. Donc je ne m'avancerai pas trop sur cette nouvelle. Moi, j'ai envie plutôt d'attendre et de voir ce que ça va donner. Il y a des choses qui sont déjà interdites en Chine, les ICO, etc. Donc il y a finalement, à mon sens, pas tant de choses de nouvelles que ça. Donc je serais assez précautionneuse, moi, avec cette news.
Même si le Bitcoin recule assez nettement, mais pas tant que ça, on aurait pu s'attendre à une baisse plus forte.
Une nouvelle n'a pas besoin d'être vraie pour faire baisser ou monter le cours du Bitcoin.
C'est vrai. On se dit que si la Chine va au bout, en tout cas, même si à vos yeux, il n'y a rien de vraiment nouveau, finalement, dans cette stratégie aujourd'hui répétée, rappelée par le pays, si elle va au bout, elle s'isolera ou elle sera au contraire peut-être à l'avant-garde ? Cette régulation très forte, là, au point de peut-être vouloir étrangler certains acteurs.
Ça dépend sur quel plan. Si on compare avec le numérique, la Chine a interdit un certain nombre de plateformes étrangères américaines sur son territoire. Ça ne l'empêche pas d'avoir des services numériques qui fonctionnent bien chez elle. Donc, tout dépend ce qu'on appelle être à la traîne ou être en avance. Je pense qu'ils arriveront sûrement à créer quelque chose de très souverain chez eux. En revanche, plus on est répressif envers les cryptos, plus on s'isole de l'écosystème crypto en général.
Owen, quel regard est-ce que vous portez sur la Chine qui, en tout cas aujourd'hui, c'est vrai, fait bouger et à la baisse les cours d'un certain nombre de crypto-monnaies? C'est nouveau ou finalement rien de véritablement neuf? C'est une piqûre de rappel, simplement, ce que nous annonce aujourd'hui la Chine?
Alors, en réalité, c'est une piqûre de rappel et on en a l'habitude. Que ce soit sur le mining, que ce soit sur les échanges, que ce soit sur les ICO, la Chine fait très souvent des annonces négatives. Après, c'est vrai que ça a un gros impact en ce moment parce que entre ça, entre Evergrande et entre tout ce qui se passe actuellement, les gens sont à l'affût de l'information, les gens font très attention à la moindre actualité et vont dans un sens ou dans l'autre. Ce matin, la moitié des annonces que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux qui disaient que la Chine avait encore une fois été très strict envers les crypto-monnaies, la moitié de ces annonces, c'est des annonces du mois dernier ou du début du mois de septembre. Donc, on se rend compte qu'en réalité, c'est plus un mouvement. On le sait bien, dans le monde de la crypto-monnaie, le moindre mouvement de confiance peut s'amplifier et faire monter les cours, et le moindre mouvement de peur, qu'on va appeler le FUD, le fait qu'on a, ça va générer de la peur, ça va générer de l'incertitude, et bien comme ce sont des actifs qui sont très liquides et qui sont facilement, qu'on peut en fait très rapidement désexposer de la volatilité ou non, dans le doute, beaucoup de gens vendre leur crypto-monnaie pour pouvoir potentiellement racheter à un point plus bas.
Ok, mais si la Chine va au bout et qu'en effet les transactions en crypto sont interdites, que le trading sur crypto aussi sur le marché chinois est interdit, ce serait un coup porté aux cryptos important ou finalement on pourra enjamber
alors,
tout ça?
La détention de crypto, à mon sens, n'est pas illégale en Chine. Donc il y a quand même, vous avez le droit en tant que citoyen d'avoir de la crypto. Ce qui est très compliqué, c'est si on commence à avoir une répression, même sur la détention. Alors je vois pas bien comment techniquement ils pourraient lutter contre ça, mais si on commence à avoir une répression des particuliers sur la détention de crypto ou une répression des entreprises sur la détention de crypto-monnaies. Là, ça pourrait devenir effectivement compliqué, mais le monde ne se résume pas à la Chine. Donc, il y a d'autres pays qui, eux, adoptent la crypto-monnaie.
Et le minage reste autorisé en Chine, peut-être pas dans tous les États. Owen, vous suivez ces questions de minage, bien sûr, de près avec Just Mining, mais voilà, on a du nouveau aujourd'hui sur l'autorisation ou les interdictions de minage en Chine. Il y a une extension de l'interdiction de minage en Chine ou rien de neuf là non plus?
Alors, ce que l'on a vu concrètement, c'est que bien qu'il y avait eu des tirs de sommation en amont, pour le coup, il y a vraiment certains cantons en Chine qui se sont vus interdire le minage. Alors, c'est quelque chose de si vaste qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, prendre une décision qui concerne tout le monde. En attendant, il y a bien eu déjà un retrait massif des mineurs sur la Chine. On le voit notamment à travers ce que l'on appelle la difficulté de mining, c'est-à-dire le nombre de mineurs connectés au réseau et la puissance globale du réseau. Cette puissance a baissé d'un coup. C'est très intéressant à voir voir sur la courbe, et on commence à la voir remonter petit à petit, parce que les mineurs qui étaient en Chine sont en train de se reconnecter un peu partout ailleurs, sur d'autres continents et dans d'autres pays. Donc pour le coup, ça pourrait encore baisser à l'avenir si jamais il y a d'autres mineurs chinois qui se retirent, mais la plupart d'entre eux l'avaient déjà fait, et dans le doute, beaucoup d'entre eux étaient déjà en train de chercher un plan B au cas où ça arriverait.
Bon, un autre sujet chinois qui fait parler depuis une semaine, et vous avez cité son nom, Evergrande, Owen, le deuxième plus gros promoteur chinois au bord de la faillite. La peur autour de Evergrande a fait chuter les marchés en début de semaine, et on a vu que les cryptos aussi avaient chuté, en tout cas le Bitcoin, qui a perdu en 24 heures 6%. Sur fond d'actualité Evergrande, on pensait pourtant que les crypto-monnaies devaient servir de refuge, et on les a vues au contraire reculer, en tout cas le Bitcoin, en même temps que les marchés actions. Claire, on peut être surpris?
Alors oui, on peut être surpris. Alors pour reprendre un peu ce qui s'est passé, donc Evergrande, groupe immobilier chinois, mais pas que dans l'immobilier, hein. C'est vraiment un groupe tentaculaire avec 2000 filiales nationales, 200 filiales offshore. Donc c'est vrai que les difficultés de ce groupe font quand même craindre un risque systémique. Donc on le compare parfois à Lehman Brothers, même si les analystes s'accordent à dire que ce sera moins grave. On se rend compte que Evergrande ne sera pas capable de rembourser ses créanciers. Donc ils sont en train de trouver un certain nombre d'accords. Mais si les créanciers ne peuvent pas être remboursés, ce sera des groupes financiers qui ne seront pas remboursés. Ce seront de grandes entreprises qui ne seront pas remboursées. Ce seront peut-être des salariés aussi qui ne toucheront pas leur rémunération. Donc ça a des conséquences économiques extrêmement larges. Donc forcément des conséquences financières sur les cours de bourse et potentiellement sur les crypto-monnaies.
Oui, les cryptos vivent pas complètement dans un nuage hein, malgré tout. Pourquoi est-ce que ça affecte les crypto-monnaies? Même explication, Owen, que celle que Claire vient de nous fournir. Dans la rédaction, on se faisait la réflexion quand même, le Bitcoin est censé être une valeur refuge et on l'a vu quand même reculer en même temps que les marchés actions en début de semaine.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, déjà, même quand c'est une valeur refuge, comme l'or, par exemple, on va aller liquider des fois ces valeurs refuges quand on a besoin de liquidité. Quand on a, par exemple, besoin de payer des prestataires, quand on a besoin d'assurer certaines lignes, ou même quand on veut, en l'occurrence, je prends l'exemple du Bitcoin, c'est quand même une ligne qui est volatile, bien que ça ait les caractéristiques d'une valeur refuge. Comme c'est une jeune technologie, c'est très volatile, et c'est pour ça que la plupart des portefeuilles qui s'exposent, je parle notamment des institutionnels sur cette ligne-là, vont en prendre une toute petite partie de leur portefeuille. Naturellement, quand on a besoin de liquidité, on doit clôturer quelques lignes, et les crypto-monnaies, c'est très liquide, on peut très facilement rentrer et sortir, et bien que ce soit, et que ça ait les caractéristiques de valeur refuge, toutes ne le sont pas, premièrement, et même le Bitcoin lui-même est une ligne volatile, et donc on va très rapidement la couper quand on a besoin de liquidité ou quand on a une mauvaise surprise qui vient d'un autre point de son portefeuille.
Explication de cette baisse du Bitcoin qui avait eu lieu en début de semaine, Claire.
Il faut effectivement rappeler qu'une grosse partie de ce bull run et de la hausse des cours des cryptos qu'on a vu est liée aux institutionnels et aux entreprises qui ont donc des crypto-monnaies et qui, elles, sont très sensibles à ce qui se passe sur Evergrande.
Bon, voilà, on a parlé des facteurs un peu négatifs qui font pression sur les cryptos en ce moment, comme sur les marchés en général, et c'est la Chine, hein, le souci en ce moment, l'ombre chinoise. Bon, il y a aussi peut-être une bonne nouvelle hier, c'est complètement anecdotique, mais c'est sympa à évoquer, c'est Port Aventura, là, le parc d'attractions espagnol, qui va accepter les paiements en Bitcoin. C'est notre ami Grégory Raymond et sa lettre 21 millions qui a alerté là-dessus hier sur Twitter. Les parcs d'attractions de Port Aventura vont accepter les paiements, les transactions en Bitcoin. Ben voilà, ça fait 2300 chambres d'hôtel. Et on voit que cet écosystème, même si la Chine tente de le réguler au maximum, il continue cet écosystème de tisser sa toile. Bon, faut aimer le Grand 8, hein, aussi. C'est un parc d'attractions, voilà. Et puis c'est les montagnes russes sur les crypto-monnaies. On a beaucoup parlé ici en France de Sorare ces derniers jours. La start-up française, seulement 37 employés, hein, Sorare. Eh bien, Sorare a levé l'une des plus grandes levées de fonds de l'histoire de la French Tech, 680 millions de dollars. Même Emmanuel Macron a félicité Sorare, acteur de la blockchain. Cependant, et ça vous a frappé ça, tous les trois, nos acteurs, nos protagonistes des rois des cryptos, des pros des cryptos, à aucun moment, pour expliquer cette levée de fonds, Sorare n'a mis en avant les crypto-monnaies. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Comment est-ce qu'on explique que jamais le mot crypto-monnaie n'ait été mentionné, Owen?
Alors, c'est délicat. Et la plupart du temps, on peut retrouver ça dans tout discours public, que ce soit à travers les mots de Madame Lagarde qui parle du coup d'actifs numériques et qui dit que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Alors que si on se base sur les trois fonctions de la monnaie qu'on nous a appris à l'école, et si on se base sur la façon dont Aristote définissait la monnaie, Bitcoin en a tout d'une. Ou si on se base sur le point de vue du Salvador ou encore d'autres institutionnels. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est se dire, est-ce que c'est un postulat? Est-ce que c'est une façon de faire? Et surtout, est-ce que c'est une façon de parler du monde des crypto-monnaies? Ou alors, on a encore des incertitudes réglementaires et on préfère tout simplement parler de la technologie blockchain? Une chose est certaine, Sorare est une plateforme qui est un jeu, d'accord, qui est basé sur la blockchain et qui permet aux gens de s'échanger des NFT. On peut le présenter sans parler de crypto-monnaie. Ensuite, c'est normal quand même que ça tique la communauté et que les gens se posent des questions. Pour se connecter à Sorare, on a besoin d'un portefeuille de crypto-monnaie. Les NFT sont bien des non-fungible tokens, mais ça fonctionne exactement comme une crypto-monnaie. Ça rentre d'ailleurs dans le même portefeuille que l'Ether, par exemple, quand on va acheter des cartes de certains joueurs. Donc c'est normal que ça gêne la communauté. En attendant, c'est quand même un petit peu dommage qu'à chaque fois qu'il y a une annonce publique et où on n'est pas le mot crypto-monnaie, on se concentre là-dessus. On attendait de notre président qu'il prenne la parole pour soutenir les entrepreneurs de son pays qui créaient de la valeur. En l'occurrence, c'est ce qu'a fait Sorare. Sorare a innové, s'est valorisé 4,3 milliards de dollars avec 37 personnes en interne. C'est simplement incroyable d'un point de vue entrepreneurial. Et notre président a pris la peine de souligner ce qui a été fait et cette levée de fonds. À partir de là, bien que le mot crypto-monnaie manque à certains et me manque à moi, par exemple, je pense qu'on n'a pas besoin d'en attendre plus et que c'est déjà une très belle mise à l'honneur.
Et vous avez cité ce chiffre incroyable, la valorisation de Sorare, 4,3 milliards de dollars, c'est plus que la Française des Jeux, hein, qui s'était introduite en bourse il n'y a pas si longtemps, c'est plus que la Française des Jeux et ils ne sont que 37 salariés chez Sorare. Sorare, la nouvelle star. Pourquoi avoir levé autant d'argent, 680 millions de dollars, Claire?
Alors, ils avaient déjà levé 40 millions de dollars en début d'année, donc ce n'est pas leur première levée. En préambule, je dirais que souvent quand on est une start-up et qu'on lève de l'argent, on lève pas tant en fonction de ses besoins qu'en fonction des chiffres qu'on réalise. Donc quand on réalise de très bons chiffres sur le plan économique comme ce que fait Sorare, finalement c'est tout à fait logique d'aller lever ce montant-là. Donc c'est plus une conséquence de leur modèle économique qu'une question de besoin, à mon sens, même si je suis sûre qu'ils vont dépenser cet argent de manière très intelligente. Là, leur projet, c'est de deux types. D'une part, ils se développent à l'international, donc ils sont en train de monter un bureau aux États-Unis pour aller concurrencer aussi certaines start-up aux US. Et puis de l'autre côté, ils vont se développer sur d'autres sports. Là, aujourd'hui, on n'a que du football masculin, donc il reste tout le football féminin. Et puis, il y a d'autres sports comme le basket, sur lesquels Sorare a envie de se développer. Et donc, on a bien vu d'ailleurs, après cette levée, qu'il se positionne plutôt sur du sport en général, sur du fantasy football, et pas seulement sur le secteur de niche, ou en tout cas le business de niche sur lequel ils étaient auparavant.
Et cette levée de fonds, la plus grosse pour une société de la French Tech, Sorare plus Ledger, deux groupes liés au crypto et à la blockchain, deux licornes et deux des plus grosses levées de fonds depuis le début de l'année pour la French Tech. On va maintenant regarder les yeux dans les yeux, ceux qui nous suivent et nous regardent dans les pros des cryptos sur BFM Business. Les yeux dans les yeux. Qui êtes-vous? Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui investissez en crypto, vous qui vous y intéressez à ces crypto-monnaies, qui êtes-vous? Eh bien, un sondage réalisé par CryptoCheck vise à dresser justement l'état des lieux de la crypto-monnaie et de ceux qui font les cryptos en France. Certaines données sont d'ailleurs intéressantes. On découvre clair que ça va vous peiner, je le sens, et ça va pas peiner que vous. 96% des investisseurs en crypto sont des hommes. Claire, 96%. Les cryptos carburent à la testostérone?
Non, alors moi je m'attendais à un gros 80%. Je m'attendais pas à 96%, mais ça ne me surprend pas qu'il y ait une majorité d'hommes, parce que c'est ce que je vois aussi dans mon quotidien. Je vois bien que dans l'écosystème, dans les personnes qui travaillent, il y a plus d'hommes que de femmes. Et que dans les gens qui investissent et que je connais, il y a aussi plus d'hommes que de femmes. Donc ça ne m'a pas surprise. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Hein. Dans l'écosystème crypto, il y a de très nombreuses femmes visibles. Il y a Faustine Fleuret qui préside la DAN. Il y a Sajid Azouari qui est une grande ingénieure sur le sujet. Voilà, il y a énormément de femmes qui œuvrent aussi pour l'écosystème crypto. Maintenant, dans les investisseurs, on peut se poser la question de pourquoi plus de femmes que d'hommes. Alors, je me suis renseignée un peu, j'ai vu que sur la bourse, il y avait quand même des dynamiques un peu similaires et que les hommes investissaient plus en bourse aussi que les femmes. Alors peut-être que les hommes ont une propension au risque un peu plus élevée. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Je rentrerai pas dans le débat.
Il y a des études patrimoniales qui le montrent en effet.
Mais voilà, c'est finalement pas très surprenant que sur un secteur très nouveau et très technique, au vu de ce qu'on voit dans la répartition des genres dans le reste de la société, on ait plus d'hommes que de femmes.
Bon, et vous aimeriez que ça change, on imagine?
Moi oui, pour mon quotidien, je trouverais ça plus sympa que ce soit plus mixte, disons.
Bon, on voit également dans ce sondage ON que les investisseurs en crypto s'informent principalement sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, on a pu voir néanmoins à quel point ça peut être dangereux avec la fake news, notamment sur le Litecoin. ON, c'est peut-être l'occasion de faire justement un peu de pédagogie, formation gratuite là sur notre antenne aujourd'hui. Pour bien investir, il faut être correctement informé, c'est la première étape. La question fondamentale, c'est pas de savoir dans quelle crypto investir, mais comment choisir auparavant ses sources d'informations.
Alors, tout à fait. Je voulais juste faire un tout petit parallèle avant. Quand je regardais les statistiques des gens qui me regardaient sur YouTube, qui est l'une des plateformes les plus consultées pour s'informer dans le monde des crypto-monnaies, là où il y avait 96% d'hommes il y a 4 ans, aujourd'hui, il y a 87% d'hommes, donc 13% de femmes, comme quoi cette dynamique est quand même en train de changer. Et même si elles n'ont pas encore songé à investir, elles sont de plus en plus nombreuses à s'informer sur le sujet et c'est une dynamique à encourager.
Ça, c'est la chemise,
en l'occurrence... J'aimerais beaucoup, mais non, en effet, c'est bel et bien l'attraction de ce marché qui touche tout le monde et qui concerne tout le monde, et ça finit par se ressentir dans les chiffres, tout simplement. Alors, pour s'informer, il y a de tout. Il y a de tout et il y a du contenu gratuit. Beaucoup de gens pensent qu'on a besoin de payer pour aller s'informer, pas forcément. Il y a également de très bonnes formations ou encore de très bonnes newsletters payantes, mais pour le coup, il y a de tout aujourd'hui en français, alors qu'à l'époque, il n'y avait vraiment que du contenu en anglais. Et donc, c'est facile de trouver différentes sources et c'est bel et bien ce que je vais inviter. Tout autant que vous investissez, on vous invite à divertir parce que vous devez diversifier votre portefeuille, pardon, et vous devez évidemment ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ben, c'est pareil pour de l'information. Quand c'est de l'information technologique, complexe et très jeune, le gros conseil, c'est la diversification de ces sources d'informations. Il y en a sur YouTube, mais il y a de plus en plus de chaînes publiques, de chaînes professionnelles, comme aujourd'hui sur ce plateau. Il y a de plus en plus de sources et de journalistes professionnels qui se tournent vers cet écosystème, en plus des différentes chaînes YouTube, des différentes chaînes vidéo, mais également des différents journaux que l'on peut trouver. Donc, j'ai pas envie de cibler sur un seul acteur, pour la simple et unique raison que c'est l'un des pans de mon métier, donc ce serait pas correct de mettre de la visibilité vers un acteur plutôt qu'un autre. Surtout que moi-même, ma source d'information, eh bien, c'est un agrégat d'une vingtaine d'endroits différents. Évidemment, c'est mon métier, donc c'est très nombreux. Quelqu'un peut très bien se faire son avis, définir 3 ou 4 sources d'information, et il doit prendre le temps de recouper ce qu'il peut entendre à gauche et à droite afin vraiment de tout simplement d'affiner la qualité de l'information qu'il reçoit et de se faire son propre avis. Donc, si je n'ai qu'un seul conseil à donner, c'est maintenant qu'il y a de très nombreuses sources d'information, consultez-en plusieurs, tout simplement.
Ouais, et pas hésiter à lire même la presse anglo-saxonne. D'ailleurs, on a vu Time et The Economist mettre en avant les crypto-monnaies en une ces derniers temps. D'un côté, The Economist qui a mis en avant la finance décentralisée, puis de l'autre, Time qui a expliqué que les États-Unis étaient en train de perdre la course à l'innovation face à la Chine. On aime bien se flageller en Europe en se disant qu'on est les plus nuls, mais pour le Time, les États-Unis sont en train eux aussi de perdre cette course à l'innovation. On a d'ailleurs vu Gary Gensler, le chairman de la SEC, estimer que les stablecoins sont des jetons de poker. Ce sont ces termes, gendarmes des marchés américains quand même, qui expliquent que ce sont des jetons de poker, ces stablecoins, et qu'ils ne vont pas durer très longtemps. Coinbase, de son côté, abandonne son produit de revenus passifs à 4% face au blocage divers et variés des régulateurs. Ça va être compliqué aussi pour les Américains. On parle tout le temps de nos retards européens face aux Chinois. Les Américains aussi vont prendre du retard, Claire ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a des signaux assez différents hein, des États-Unis selon les interlocuteurs. On voit qu'il y a des personnes qui sont extrêmement bullish, hein, même du côté de la Fed. Et puis, du côté de la SEC, donc de la SEC, c'est plus frileux, hein, très clairement. Donc, bon, jetons de poker, c'est un effet d'annonce, hein, c'est un élément de langage.
Un peu péjoratif, oui.
Voilà. Après, c'est vrai que là, il y a eu un coup de froid avec Coinbase qui a décidé de jouer le jeu du régulateur, de retirer son produit. On entre un peu dans une bataille juridique avec la SEC qui décide de considérer ce produit comme un produit d'investissement, tout simplement. Et puis Coinbase qui, de son côté, parle plutôt de programme de prêt. Et donc, on est vraiment dans une bataille sur dans quelle case est-ce qu'on va faire rentrer ce type de produit financier, ce type de produit d'investissement dans des crypto-monnaies ou de programme de prêt. Et donc là, la suite, c'est Coinbase qui a annoncé travailler sur un cadre réglementaire qu'ils vont proposer aux régulateurs. Donc, on est vraiment sur une entreprise qui décide de coopérer et carrément de proposer une sorte de classification pour aider le régulateur à faire rentrer ses nouveaux actifs dans les bonnes cases.
Oui, il faut se bouger, faut suer sang et eau pour trouver sa place dans l'écosystème.
C'est vrai que c'est pas évident. On le voit aussi en Europe, hein, cette difficulté à classer les crypto-monnaies dans les différents types d'actifs qu'on connaît, parce que c'est quelque chose de très hybride.
Le problème de la finance décentralisée, c'est qu'elle est très ambitieuse, justement, et qu'elle risque peut-être de faire bouger les places, en tout cas de changer, de transformer les hiérarchies. Est-ce que justement, c'est pas ça le problème, Owen, que fait que la finance décentralisée soit brandée comme une innovation potentiellement capable de changer, de transformer le système ?
Alors, il y a vraiment, et en fait, on a tellement peu de visibilité sur ces questions qu'on ne peut que spéculer suite aux vraies raisons qui font que les régulateurs réagissent de cette façon, dans certains pays, mais pas dans d'autres. Il y a plusieurs choses dont on est conscient. La première chose dans le cas de Coinbase, c'est que techniquement et en appliquant la loi telle qu'elle est posée, le régulateur n'aurait pas dû refuser ce produit à Coinbase. Et c'est ce qui a très clairement mis hors de lui le fondateur de la structure qui a expliqué sur les réseaux. Ils nous ont simplement dit non. On a demandé pourquoi, ils nous ont dit parce que. En gros, ce qui est assez fou. Et donc là, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'une incompréhension vis-à-vis de cette technologie et donc, quand on ne comprend pas quelque chose, on préfère ne pas le laisser se développer ? Pour le coup, ce qui peut être compréhensible. Est-ce qu'ils vont réussir à construire ensemble, je parle de Coinbase, hein, ce géant, et le régulateur, une façon de permettre ce genre d'innovation et ce genre de solution de finance décentralisée ou est-ce qu'ils vont justement rester du coup sur une discussion qui est complexe pour l'instant et qui ne propose pas de solution finalement ? Une chose qu'on est certain... Beaucoup de gens voient le monde de la finance décentralisée comme sur le point de tuer la finance centralisée. Tout comme certains voyaient la blockchain comme sur le point de tuer certains emplois. Je pense que c'est dommage d'avoir ce point de vue réducteur, de toujours penser que quelque chose de nouveau se doit de détruire ce qu'il y avait avant, alors qu'on peut simplement prendre les nouvelles bonnes fonctionnalités, les nouvelles possibilités que vont nous offrir cette technologie et les additionner en épousant l'ancien système et ses anciens modèles, en utilisant les nouvelles méthodes pour pouvoir régler des problèmes qui n'avaient pas de solution jusqu'alors, sans pour autant détruire tout ce qui existait. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'on ne va pas pouvoir réguler la finance décentralisée avec les mêmes normes et la même rigueur que l'on a régulé la finance centralisée. Simplement parce que ce ne sont pas les mêmes outils. On doit avoir une régulation qui comprend la liberté dont a besoin la technologie et qui la régule convenablement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour tout ce qui est normes d'anti-money laundering, donc la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, etc., etc., on a encore des incertitudes sur comment est-ce que l'on va pouvoir sécuriser totalement le monde de la finance décentralisée tout en diminuant ses risques. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les régulateurs sont dans une position délicate. Ils doivent des fois prendre une décision qui est trop rigoureuse, qui est trop stricte et qui peut tuer l'écosystème. Et à l'inverse, ne rien faire, ce serait potentiellement perdre le contrôle. C'est cette incertitude-là et également le fait que ça a explosé très vite. Hein, ça fait quelques mois, la finance décentralisée. Qu'on se retrouve des fois dans des situations particulières où des régulateurs prennent des décisions très strictes, mais peuvent potentiellement revenir dessus dans un futur proche.
Merci à tous les trois. Les pros des cryptos, vous pouvez trouver en podcast aussi ce week-end. Owen Simonin à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube. Hacheur, Claire Balva avec nous, Blockchain Partner et KPMG France. Merci beaucoup, Claire. Merci Owen également qu'on salue à distance. Un grand merci à Vincent Gagne qui nous accompagne aussi pour TradingView France et les cryptos qui reculent avec la Chine aujourd'hui. Le Bitcoin à 42 000 dollars en ce moment. Dans un instant, le club.